voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Bonjour à toutes et à tous. En Lobiri, Bicontine veut dire enfant adulte. Ce nom lui va bien à notre voyageur poète qui parcourt le Burkina Faso du sud au nord et d'ouest en est et y traque l'héritage de Thomas Sankara. Bicontine, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour les auditeurs RFI.
Vous êtes en ligne avec nous du Burkina Faso. Vous êtes où exactement?
Je suis à Bobo-Dioulasso et en ce moment au centre d'Elia où je travaille.
Alors,
une création.
Vous êtes le héros du documentaire de Lucie Vivert, avec nous en ligne également, mais à Paris. Bonjour Lucie Vivert.
Oui, bonjour.
Votre premier long métrage intitulé « Sankara n'est pas mort » devait sortir en salle en France. Et puis, en ces temps de coronavirus et de fermeture des salles, la décision a été prise de le rendre disponible en e-cinéma sur la 25e heure. Alors, par ces temps de pandémie mondiale, de distanciation physique, d'interdiction de longs voyages, qu'il est bon de prendre une bouffée d'air en votre compagnie au pays des hommes intègres. Nous allons avec vous deux, Bicontine et Lucie Vivert, découvrir les 15 premières minutes de « Sankara n'est pas mort » par la grâce de sa bande-son. Le film débute dans une usine de conditionnement de dosettes d'eau.
J'allais partir. J'avais mis du temps. Je m'étais préparé à partir. Loin, loin. Loin et très loin.
Puis, enchaîne sur des images de manifestations.
J'allais
on vous entend avant de voir votre visage Bicontine, un visage déterminé, une casquette aux
pleine.
Couleurs rasta.
Je pensais à l'occidentalité. Ma tête était pleine. Elle débordait de spéculations. J'étais convaincu. J'étais perdu. Mais un jour, l'espoir se planta dans mon rêve. J'étais là, en ces journées inoubliables d'octobre 2014, pour dire non au président et à son règne interminable.
Lucie Vivert, ces images que l'on voit à l'écran, ces images du soulèvement populaire, ce sont celles d'octobre 2014. Vous étiez au Burkina Faso?
Non, moi je n'y étais pas. Donc les images de l'insurrection qu'on peut voir dans le film ont été tournées par un jeune français qui était sur place, qui s'appelle Michael Doulson Alberca. Voilà. Et non, moi j'étais en France au moment de l'insurrection et j'ai vécu l'insurrection, bon, à distance bien sûr, et notamment en échangeant avec Bicontine. Voilà, donc j'étais pas sur place dans les rues.
Mais alors comment vous êtes rencontrés Lucie et Bicontine? C'était avant donc octobre 2014?
Oui, en 2012. Voilà, c'était mon premier voyage au Burkina et même mon premier voyage en Afrique. Voilà, et c'était à l'invitation d'une amie institutrice qui avait pris une année de disponibilité pour enseigner dans une école en brousse. Et voilà, elle m'a invitée et je suis partie 15 jours. Hein. C'était un séjour très très court mais qui m'a énormément marquée. Et donc pendant lequel j'ai rencontré Bicontine et quelque part rencontré Thomas Sankara également, puisque je ne connaissais pas malheureusement Thomas Sankara et que voilà, ça a été déterminant.
Il a été mon président, le président de mon papa. Il ne peut pas être le président de mon enfant. Dis à mon cher ami Blaise Compaoré que nous sommes venus le trouver.
On a marre de lui. Il n'a qu'à nous laisser, on a nos frères. Nous-mêmes, on veut gouverner, on veut dire. On a marre. Moi, révolutionnaire, fils de Thomas Sankara, je représente pour la ZERMI. Mais bien se comparer, quand même.
Alors justement, à l'image, donc ces images hein, du soulèvement populaire, on voit des manifestants qui brandissent des portraits de Thomas Sankara, qui a été en fait un éphémère président du Burkina Faso, est arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 1983 et qui est mort assassiné 4 ans plus tard. Vous étiez, vous, en octobre 2014, dans les rues Bicontine pour chasser du pouvoir Blaise Compaoré?
Oui, j'étais dans les rues, chasser Blaise Compaoré, je ne sais pas si c'est ce que j'étais sorti pour faire. Il faut être, comment on appelle ça? On était sorti plutôt pour se manifester au début contre la manipulation de la Constitution et notamment de l'article 37. Et puis finalement, avec les événements, donc du 28 au 30, il y a eu des évolutions et ce sont ces évolutions-là qui ont amené Blaise Compaoré à finalement abandonner le pouvoir. Je pense qu'il a plutôt abandonné, on ne l'a pas forcément chassé, il a abandonné le pouvoir parce qu'il a senti qu'il était sur une fausse voie et il s'est réfugié ailleurs.
On vous voit donc dans ces premières minutes du film Bicontine. Je crois que vous avez une trentaine d'années. Vous êtes engagé depuis longtemps ou il y a eu une sorte de prise de conscience que assez, c'était assez?
Disons, de par ma famille, j'ai une éducation de quelqu'un qui quand même n'aime pas les brimades des autres. Et nous avons vécu toute notre enfance avec ces situations diverses où il était même impossible souvent de prononcer le nom de Thomas Sankara, où il était plutôt impossible de parler de Blaise Compaoré en mal, etc., etc. Donc mon enfance a été baignée de cela. Et quelqu'un qui a été baigné de cela, à un moment donné, il va de soi qu'il se sente un peu frustré et qu'il fasse partie des gens qui quand même réclament un peu plus de droits et de justice, un peu plus de regard sur la population que des affairismes politiques. Je peux pas dire que je suis une personne engagée, je ne suis pas forcément une personne engagée, mais je suis quand même quelqu'un qui regarde de manière concrète comment est-ce que la société de chez moi évolue et partant de cela, cette évolution-là, quelle est la part des responsabilités que je peux avoir d'une manière ou d'une autre.
Sur la suite des séquences donc du début du documentaire, vous montrez, Lucie, vous avez choisi des images où on voit des policiers qui tirent sur la foule. Le caméraman, hein, celui qui prend les images, court avec les manifestants. Une voiture brûle, on entend des gens qui disent on en a marre. Et puis ensuite, ce sont les scènes de liesse dans les rues. Et votre prose, Bicontine, hein, le souffle de la révolte chasse mes mauvais rêves.
Le souffle de la révolte chasse mes mauvais rêves d'aventure. Mes frères, mes sœurs enfin libérées, me tendent la main pour me sortir de mon chancellement et m'armer de ma plume. Dans quelle galaxie le pays va-t-il s'enfoncer ? Périlleuse ou féerique. Et alors pour moi, où sera ma place?
Vous étiez, vous, dans... Vous avez vécu, en fait, toutes ces journées?
Oui, j'ai vécu ces journées depuis la ville de Bobo-Dioulasso, où j'habite en ce moment. Et c'est vrai qu'au début, il y avait donc les forces de défense qui voulait faire la résistance en faveur du pouvoir. Et puis, par une espèce de, je sais pas, de force spirituelle ou magie, là. Et même, entre-temps, ils ont dû croiser les bras pour regarder la population faire ce qu'elle avait envie de faire, ce qu'elle voulait manifester dans la rue. Donc, il y a eu Il y a eu des blessés qu'on a trimballés à l'hôpital sous nos regards, sous nos yeux, comme on dit. Et puis, ouais, c'était vraiment quelque chose de pas ordinaire au Burkina Faso.
Alors, on vous voit préparer votre sac, on vous voit écrire au stylo sur un cahier à la lampe tempête. Est-ce que vous écrivez depuis toujours ou est-ce que la poésie, c'est une révélation soudaine?
Il y a les deux effets. Ça veut dire que moi, j'écrivais, mais je ne considérais pas forcément ce que j'écris comme tel. Et puis, je ne lisais qu'à des proches ce que j'écris pour analyser ou bien pour voir quels sont les ressentis chaque fois quand je proposais une nouvelle lecture. Et puis, il y a eu donc l'arrivée de Lucie qui est comme une révélation quand même, parce que Lucie a été une personne qui m'a écouté, qui a écouté cette écriture-là et qui s'est dit que ça avait quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose-là qu'elle a essayé de transformer dans son film qui est aujourd'hui Sankara n'est pas mort. Donc, il y a l'aspect, j'écris depuis, je crois, mes 20, 22 ans. Et puis, finalement, c'est avec donc l'arrivée de Lucie que ça devient une révélation de quelqu'un qui était à l'ombre et qui ne faisait que sa naïveté sur les carnets.
Je voyage à travers le pays des hommes intègres. Je voyage à bord du train. De Larba, le village frontalier du sud-ouest, à Beregadougou, le pays de la canne à sucre. Je voyage et je prolongerai mon chemin vers Ouagadougou. Je voyage à travers le pays de Thomas Sankara. Et j'irai jusqu'à Kaya, nouveau terminus sahélien du chemin de fer. Là où s'arrêtent les rails posés par l'espoir à main nue.
Alors à ce moment du film, hein, vous expliquez que vous allez voyager à travers le pays des hommes intègres. Alors, comment ça s'est passé, Lucie Vivert? Parce que donc en 2014, vous n'étiez pas là au moment de cette insurrection. Vous aviez rencontré, vous l'avez dit, Bicontine 2 ans auparavant. Vous êtes donc reparti ensuite au Burkina Faso. C'est vous qui avez proposé à Bicontine ce voyage finalement à travers le Burkina Faso?
Oui, à partir de l'insurrection populaire de 2014, voilà, moi j'étais toujours en contact avec Bicontine. L'idée du film a germé, hein, c'est vraiment à ce moment-là qu'elle a germé. Mais ensuite, il y a eu plusieurs étapes avant même de partir en tournage. Le tournage a eu lieu en 2017. Donc vous voyez, il y a eu 3 ans quelque part d'échanges, d'aller-retour. Voilà, moi je suis retournée au Burkina Faso au moins 3 fois avant le tournage de 2017. Voilà, c'est à la fois pour approfondir les discussions avec Bicontine, à la fois pour tout simplement être au Burkina et voilà, évaluer la situation, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les préoccupations des gens réels, etc. Et puis, des repérages, le long de la voie ferrée, cette idée du trajet le long de la voie ferrée, elle est venue dans un deuxième temps, mais on a quand même eu la chance de pouvoir partir un peu en repérage. En amont, et on a découvert certaines localités qui, tout ce travail ensuite a nourri les préparatifs jusqu'au tournage.
Donc vous choisissez en fait comme ligne de, alors je ne vais pas dire la ligne de crête, mais enfin oui, comme parcours, la ligne du chemin de fer, cette ligne que justement Thomas Sankara avait développée.
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'elle a été construite sous la colonisation française, pendant la colonisation française, entre Abidjan et Ouagadougou, et à l'initiative de Thomas Sankara, elle a été prolongée de 100 km entre Ouagadougou et Kaya par les Burkinabés eux-mêmes. Voilà, ça s'appelait, cette campagne-là a été appelée par Sankara la bataille du rail. Et on en voit d'ailleurs des archives, des images d'archives dans le film.
Et du coup, ce choix, en fait, Lucie Vivert, ça vous permet de réaliser un road movie et on traverse tout le Burkina agricole, le Burkina industriel, les villes, les campagnes.
Tout à fait. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai proposé à Bicontine ce trajet. C'était la variété, effectivement, des paysages et des communes traversées. Mais c'était aussi bien sûr donc l'histoire, comme je viens de le dire, qui permettait en fait ce trajet permet d'évoquer voilà des moments historiques importants du Burkina et ce décor incroyable hein, de ces 100 kilomètres qui ont été construits par les Burkinabés et qui actuellement sont abandonnés. C'est un décor voilà de cinéma incroyable pour pouvoir raconter et suggérer des choses. Autant sur par rapport au pays et à son avenir que par rapport au poète et à son voyage.
Première étape, donc au bout de ces 5 minutes de prologue, première étape, Bérégadougou et ce carton, l'illusion d'une vie meilleure. Bicontine, c'est vous qui avez trouvé justement à chaque fois la phrase, la périphrase associée à chaque étape du parcours, donc Bérégadougou, l'illusion d'une vie meilleure.
Il faut dire que les poèmes que j'ai écrit pas mal de poèmes, mais c'est dans le travail de réalisation et de montage que Lucie et Nicolas certainement ont trouvé les articulations nécessaires pour faire les cartons. Je n'ai pas proposé de faire des cartons parce que le montage, je ne sais pas du tout comment la fabrication des films, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne là. Et donc moi-même, c'était des surprises de voir que les cartons correspondaient à peu près à ce que nous avons vécu d'ici et moi.
Donc première étape, Bérégadougou, Bicontine. Vous allez donner un coup de main dans un champ de canne à sucre. Enfin, en tout cas, vous allez au moins voir comment ça se passe. Alors pourquoi ce choix, Bicontine et Lucie Vivert, la canne à sucre? C'est parce que c'est Thomas Sankara qui a développé la filière sucrière du Burkina.
À vrai dire, je ne sais pas si Sankara... Je pense que ça préexistait, mais ça reste à vérifier. Non, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est qu'à Bérégadougou, voilà, c'est l'activité économique principale, on va dire. Et en plus, c'est vraiment circonscrit à cette zone. Hein. C'est vraiment le seul endroit au Burkina où on cultive la canne à sucre. Et en plus, voilà, le sucre qui est produit à Bérégadougou, donc c'est vraiment la production locale, elle est vraiment consommée par les Burkinabés et c'est vraiment identifié comme tel par les Burkinabés. Donc voilà, il y avait quelque chose aussi de symbolique sur de quoi sont capables les Burkinabés pour leur propre consommation. Et ça fait référence donc à une des phrases de Thomas Sankara, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous pouvons consommer. C'était plus dans cette idée-là.
À Bérégadougou, vous allez dans une école maternelle, une école avec des enfants du primaire, hein, et je sais, ils sont très très nombreux et la maîtresse leur apprend les couleurs du drapeau burkinabé.
Les étalons vont pour jouer en Côte d'Ivoire, c'est ces drapeaux qu'ils prennent pour montrer qu'ils sont des Burkinabés, c'est ça non?
Oui.
Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble, écoutez, notre drapeau a combien de couleurs? Attention, on regarde d'abord.
Donc je rappelle, un rouge, jaune et vert.
Les trois couleurs là, c'est quoi, quoi et puis quoi? Oui, Wahab.
Rouge, jaune, vert.
C'est les rouges. Les jaunes et les
verts. Ça, c'est aussi un héritage hein, de Thomas Sankara, puisque avant sa présidence, le Burkina Faso ça s'appelait la Haute Volta.
Tout à fait. Je ne sais pas si Bicontine, tu veux répondre ou...
Oui, les drapeaux, c'est aussi la période Sankara, comme l'hymne national, comme le nom du pays, qui avant donc les années 83. C'était la Haute Volta et je crois que c'était le blanc, noir, quelque chose. Je ne me rappelle pas parce que ce n'est pas du tout de ma génération. Oui.
Ça, c'est un peu ça.
Ouais. L'hymne national, c'était Fier Volta ou quelque chose comme ça. Ce sont nos aînés ou nos parents qui savent vraiment ce que c'est. Ce que nous, on connaît, c'est le Burkina Faso, c'est l'hymne national, le titanien qui est d'ailleurs en Lobili. Et Burkina Faso qui est à la fois en Mouré et en Moré et en Djula, et puis Burkinabé qui est en Fulfulde. Vous voyez, en fait, c'est cette espèce de culture mélangée là qui fait l'acceptation de tout ça par la population et la fierté de la population en même temps.
Beaucoup de femmes et d'hommes sont morts en construisant ce pont.
On voit ensuite un... Il y a un plan où on vous voit, Biconti, sous un pont. Justement, le pont de cette fameuse ligne de chemin de fer. Vous rencontrez un paysan qui vous fait don d'arachide. Et effectivement, comme vous disiez, Lucie, on voit la date hein, sur la construction du pont, 1939. Donc c'est un pont un viaduc vestige de la colonisation. Et vous le dites, il y a des femmes et des hommes qui sont morts en construisant ce pont. Bicontine, ça c'est une histoire que vous avez... Ça vous l'avez appris par vous-même ou c'est ce qu'on vous avez appris justement en allant à l'école?
Non, ni en allant à l'école... ni appris, parce que ce qui est intéressant dans le voyage que nous avons fait, Lucie et moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses que moi-même j'ai redécouvert à travers mon pays. C'est pas des choses que le commun des Burkinabés connaît. Le pont 32, comme on l'appelle donc au village de Bérégadougoula, le pont 32, c'est vraiment quelque chose de très symbolique. Et si vous voyez la hauteur, vous voyez la hauteur de ces ponts et vous imaginez que des gens ont effectivement travaillé tout ça avec peut-être des efforts physiques au-delà de ce qu'on peut imaginer, ça laisse entrevoir tout de suite toute son histoire, ça laisse imaginer toute son histoire. Mais au-delà de ça, s'il y avait des personnes capables de nous retracer l'histoire de ces chemins de fer-là, et ils nous expliqueraient effectivement que beaucoup de femmes et d'hommes ont dû perdre la vie en construisant ce pont. Je pense que c'est toute cette image-là, toute cette émotion-là que le film essaye d'évoquer.
On vous voit ensuite de nouveau écrire la nuit, Bicontine. C'est votre rythme, vous écrivez toujours la nuit, c'est là que vous trouvez l'inspiration.
Qu'est-ce que je vais dire? Il faut dire qu'effectivement, il y a assez longtemps, où souvent c'était beaucoup plus les nuits que j'écrivais. De plus en plus, c'est pas forcément le même tempo, comme on dit. Mais oui, à ce temps-là, moi, j'étais beaucoup quelqu'un qui ne dormait pas forcément vite. Jusqu'à présent, je dors pas vite. Je me réveille tôt. Mais j'ai l'impression que ma vie même, elle-même, ma vie en relation avec moi-même, ne commence que lorsque le nuage, les draps noirs se couvrent sur les hommes. Et c'est cette période-là, en tout cas, qui est beaucoup plus prolifique pour moi, qui me permet d'entrer en contact avec moi-même beaucoup plus facilement. Voilà.
On va arrêter là, à Bérégadougou hein, le commentaire de la première bobine, quasiment séquence par séquence, mais on va quand même dire aux auditeurs que dans ce documentaire, Sankara n'est pas mort. Votre périple Bicontine vous mènera ensuite à Bobo Dioulasso, Bagassi, Pompoy, Zamo, Ouagadougou et puis évidemment vers Kaya. Et puis vous rencontrerez au fil de votre parcours des jeunes, des femmes, un médecin humaniste, des paysans, des orpailleurs. Comment vous avez fait ces rencontres, Lucie Vivert, Bicontine? Comment vous avez déterminé lors des repérages justement à peu près les personnes que vous vouliez faire rencontrer à Bicontine, ou ça s'est fait un peu au fil de l'eau?
Alors en fait, on avait, comme je le dis, on a effectivement fait des repérages en amont du tournage, mais c'était plus pour les lieux, voilà, parce que de toute façon, on voulait quand même se laisser la plus grande liberté possible au moment du tournage, et notamment pour les rencontres. Donc non, ce sont des rencontres que nous avons faites au cours du voyage. À chaque fois qu'on arrivait dans une localité, on prenait vraiment le temps de se présenter, de partager le quotidien des villageois, d'échanger avec eux, etc. Et donc au bout d'un moment, on se disait on pourrait filmer une conversation avec telle personne. Donc voilà, c'est... C'était au fil du voyage, mais c'était aussi le fruit de réflexions quand nous étions sur place.
Et justement, ça permet un peu des thématiques. Par exemple, à Bobo Dioulasso, vous montez Bicontine dans un taxi conduit par une femme. Et puis après, ça nous mènera, en tout cas nous spectateurs, au centre de planning familial. Et c'est une façon d'évoquer aussi que l'héritage de cette présidence Sankara, ça va jusqu'au féminisme, jusqu'à la prise en compte de la personnalité de la femme, de l'importance et de l'importance de son indépendance.
Oui, oui, oui. Il faut reconnaître que c'est la femme elle-même qui l'explique. Elle est beaucoup plus proche de comprendre ce qui était Sankara plus que moi, parce que elle explique qu'elle était jeune quand Sankara était au pouvoir, alors que peut-être moi je venais pratiquement de quitter les berceaux. Donc il faut dire que au jour d'aujourd'hui, même dans la vie actuelle, quand les gens manifestent le 8 mars, ils manifestent, les femmes ont taquiné leur mari en leur disant « Aujourd'hui, c'est vous qui allez au marché, parce que c'était un concept assez sankariste, ce qu'on nous a raconté. » Voilà, donc Sankara quand même avait un engagement selon ce qu'on nous a raconté, parce que je ne peux pas prendre une position affirmative pour dire « Oui, Sankara, c'était ça. » Sankara, c'est quand même quelqu'un qui a marqué des générations de personnes qui se l'ont transmise et jusqu'à l'insurrection populaire de 2014.
Sankara qui inspire donc et qui inspire évidemment les artistes burkinabés actuels. On va faire une pause musicale dans tous les cinémas du monde, mais on reste au Burkina Faso avec ce titre de Jean-Pierre Manova, Président Sankara.
Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun.
Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara. Là tu la verras s'ouvrir sur une plaine de raison pure qui passe l'envie d'en rire, tu peux en être sûr. Une vérité qui éclate au visage sans trucage ni mascara, la sincérité d'une voix Sankara. À ceux qui pensent l'Afrique comme un clip de Shakira où le blanc mène la danse et les nègres suivent le pas dans l'insouciance légère que tu crois, chantant en ouvrant leurs bras, jeu auquel ne jouait pas Sankara. Tu ne sauras pas depuis quand ni même comment se mesure le nombre de tonnes de litres d'hydrocarbures. Mais c'est pas l'amour qu'a pu lui porter Jacques Faucard qui nous lie, amour qu'a pourtant subi Sankara. Loin de tout le rituel, des constats larmoyants, des jérémias habituels, du paternalisme ambiant, non. C'est un regard dans les yeux qui provoque l'embarras d'un Occident pernicieux. Sankara, si tu penses que la misère en Afrique est inhérente au fait que le nègre y serait trop fainéant, oh, apprends comment tes dirigeants régentent le néant d'un continent et tu apprends Sankara. Pas du genre de ces petits chefs pleins d'apparat qui défilent en voiture blindée à la parade. Ni un illuminé, ni un pharaon, un prophète ou un marat. Un soldat du Burkina, Sankara.
On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples dans leur démarche.
La mort de quelques hommes peut avoir une incidence sur l'avenir de pays faisant 6 fois la France. Et le travail entamé pour y voir plus de justice et de droit qu'on ne laissera pas finira Sankara. Quand tu voudras savoir pourquoi viennent tous ces noirs, tous ces gens quittant leur terre dans l'amer espoir de s'écorcher les mains pour moins que le SMIC horaire. C'est de ce genre d'honoraire dont ne voulait pas Sankara. Si tu penses qu'être d'Afrique implique de manière fausse de danser le coupé décalé, bouffer du riz en sauce, je ne parle pas des clowns qui prennent juste l'accent et qui s'y croient. Je parle de Thomas Sankara. Le sang se déshydrate, le pétrole se raffine. Si tu te dis comme Squat que l'État assassine, cherche un peu et tu verras, c'est pas un secret d'État. Sans ça, Lumumba l'aurait dit à Sankara. Si tu veux voir autre chose que la mort et ses vestiges, ces présidents qui s'arrosent pour leur seul prestige, vampires de leur peuple, commerçants des richesses et du sang, embarrassés par le cran de Sankara. S'il faut mentionner un chef d'État africain, quelqu'un dont il fallait se souvenir, dont on se souvient pour n'avoir pas rampé devant l'hexagone, lui abandonnant les siens pour un trône, ce serait bien Sankara. Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara.
La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran.
Vous êtes bien à l'écoute de Tous les cinémas du monde sur RFI. Nous sommes en ligne avec la réalisatrice Lucie Vivert, qui est à Paris, et puis avec le poète voyageur Bicontine, personnage principal du documentaire Sankara n'est pas mort, un film radiographie du Burkina Faso actuel, mais qui recherche aussi l'héritage de Thomas Sankara, donc le charismatique militaire devenu président en 1983, jusqu'à sa mort, assassiné en 1980. En 4 ans, ce politique visionnaire, panafricaniste et anticolonialiste aura cherché à métamorphoser son pays, à le sortir de toute tutelle, de toute entrave, notamment financière. Et Lucie Vivert, dans votre documentaire « Sankara n'est pas mort », vous insérez quelques images d'archives comme celle-ci.
La dette ne peut pas être remboursée. Ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin,
voilà ce discours de Thomas Sankara, hein, on entend toute son audace et tout son humour d'ailleurs, à l'appui d'une réflexion sur la souveraineté des pays africains. Et ce discours semble d'une actualité presque brûlante, hein, encore plus depuis quelques jours, enfin même depuis quelques semaines, là, et la crise du coronavirus et l'appel d'Emmanuel Macron à effacer la dette des pays africains, car plus de 30 ans après ce discours de Sankara, les pays d'Afrique, et notamment le Burkina Faso, sont encore écrasés. Lucie Vivert, c'est quand vous avez retrouvé cette archive, c'est ce qui vous a semblé, c'est ce qui vous a frappé, l'actualité?
Oui, bien sûr, oui. Sankara, il était en avance sur son temps, sur pas mal de domaines. Mais c'est vrai que cette archive, je l'aime beaucoup. Et en plus, c'est la première fois dans le film qu'on voit Thomas Sankara. Il est effectivement invoqué par les insurgés dans les images d'archives de l'insurrection de 2014. Mais là, c'est la première fois qu'on le voit à l'image, donc dans cette archive du discours à Addis Abeba. Et en fait, j'ai choisi cette archive-là pour sa première apparition parce que, voilà, effectivement, le thème de la dette, c'est vraiment un acte majeur de son engagement, de son combat à l'époque et effectivement qui est encore bien d'actualité. Mais aussi parce qu'on découvre tout de suite son charisme, son humour, comme vous disiez, son audace. Il y a quelque chose de très complet qui montre tout de suite quel genre d'homme était Thomas Sankara.
Vous la connaissiez, vous, cette archive, Bicontine?
Oui, je connaissais cette archive. Et puis en 2014, tout ce qui était caché de Thomas Sankara, il y a beaucoup de choses qui se sont révélées. Qui se sont révélées d'eux-mêmes. Voilà.
Oui, c'est ça. C'est parce que pendant toute la présidence de Blaise Compaoré, en fait, on ne parlait pas de Thomas Sankara, c'est ça? On n'avait pas forcément le droit, ou en tout cas, il n'était pas révéré comme il l'est, depuis 2014.
Il y a beaucoup de choses qui expliquent comment est-ce que Sankara a été à la fois assassiné, mais qu'on ait cherché même à faire disparaître son image sur la surface de la Terre. Moi, mon enfance, Si tu disais Sankara, il fallait regarder à gauche, à droite, devant, derrière, avant de prononcer le nom de Sankara. Ah oui, ça, c'est des situations que nous avons vécues quand nous étions enfants. On ne savait même pas pourquoi. Parce qu'à son temps, nous ne comprenions pas forcément ce que c'était la politique et puis toutes ces histoires de sankaristes, voilà. Nous ne comprenions pas forcément. Mais nous savions que c'était risqué de dire le nom de Sankara parce que, avant de le dire vraiment, il fallait, c'était déjà comme une prise de risque. On prenait le risque de le dire entre nous comme c'était un héros. Mais on ne savait pas vraiment ce que c'était. Et au jour d'aujourd'hui, disons, à partir de 2014, tout cela s'est confirmé avec ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et même, contrairement à Sankara, même le nom de Blaise, il fallait réfléchir par deux fois avant de porter une critique sur l'image de Blaise Compaoré. Ça aussi, nous l'avons vécu. Je l'ai vécu quand j'étais enfant. Et donc, ce sont des situations. Pour nous, c'était deux mythes. Il y avait le mythe Sankara, mais il y avait aussi le mythe Compaoré qui était plutôt un personnage dont il ne fallait pas profaner. Il ne fallait pas profaner les noms au risque de te retrouver dans une situation inattendue. Donc, je pense que c'est ça, en fait.
Et alors là, ce qu'on voit dans le documentaire, c'est que, par exemple, il y a des projections de discours de Sankara, enfin, ou d'intervention sur un écran blanc à la Belle Étoile. Ça, c'est incroyable, cette séquence, Lucie Vivert, Bicontine. Vous vous êtes retrouvée dans cette ville, devant cette projection. C'était totalement un hasard, un heureux hasard, dans le cadre de votre documentaire?
Oui, en fait, c'est la date en fait qui a été déterminante, dans le sens où donc c'est à Ouagadougou et moi j'avais décidé de partir en tournage entre septembre et décembre 2017 parce qu'aussi pendant cette période il y aurait les 30 ans de la mort de Thomas Sankara. Donc le 15 octobre 2017, il y a eu une marche dans Ouagadougou, voilà, pour notamment demander la réouverture du dossier de l'enquête, ou en tout cas, voilà, que cette enquête concernant son assassinat avance concrètement. Donc voilà, on a suivi cette marche, les militants du Ballet Citoyen notamment, qui étaient à l'origine de cette marche. Et puis le soir, en fait, devant leur siège à Ouagadougou, ils présentaient le film Capitaine Thomas Sankara de Christophe Cuplin aux habitants du quartier, tout simplement. Donc voilà, on ne savait pas, c'est vrai qu'ils allaient organiser ça, mais bon, à partir du moment où il y avait cet événement qui se passait, j'ai décidé de filmer, surtout les réactions du public en fait, et ces visages concentrés, bon nombre d'entre eux connaissent déjà une bonne part des discours et des grandes déclarations de Sankara, mais voilà, c'est vraiment toujours très impressionnant de voir la concentration et la réflexion que peut susciter Sankara pour les Burkinabés.
Mais alors comment vous expliquez, et c'est aussi d'ailleurs peut-être aussi le sens du titre du documentaire, hein, Sankara n'est pas mort, que justement il y ait cette ferveur et que la mémoire, elle ne se soit pas perdue, alors que pendant plus de 30 ans, comme le disait Bicontine, on ne pouvait pas trop prononcer son nom, que ses discours n'étaient pas forcément, j'imagine, retransmis à la télévision publique. Or, on voit à de nombreuses reprises dans le documentaire Bicontine qui parle avec la femme chauffeur de taxi, mais même avec un autre jeune 00 qui lui dit qu'il avait 5 ans à la mort de Thomas Sankara. Comment ça se fait que finalement cette mémoire, elle se soit perpétrée, elle s'est perpétrée comme ça en secret?
C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer parce que la seule chose qui apparaît ici comme évidente, en 2014, que ce soit ceux qui aimaient Sankara ou ceux qui n'aimaient pas Sankara, c'est nous tous qui nous sommes mis ensemble pour dire au revoir au pouvoir de Blaise Compaoré qui est venu juste après Sankara. Et je pense que les gens, au fur et à mesure des ans qui sont passés de 87 jusqu'à 2014, se rendaient compte effectivement petit à petit de ce qu'ils avaient perdu de l'époque de la Révolution jusqu'à la période dite démocratique et gérée par Blaise Compaoré pendant 27 ans en solo. Donc cette situation-là ne pouvait laisser personne indifférent. Ça veut dire que vous voyez même les vieilles personnes qui même n'arrivaient pas à marcher, tout le monde s'est vraiment mis sur le même pied d'égalité ces jours-là pour dire, mais ça fait quand même quelque chose que nous n'avons pas réussi à dire depuis des années. Aujourd'hui, il faut l'exprimer. Il faut dire à Blaise qu'il fallait suivre le chemin de Sankara depuis longtemps. Et comme on n'est plus sur ce chemin-là, il faut aussi un autre type de personnage politique pour incarner la volonté des Burkinabés. C'est ce qui est important. Je pense que ça c'est ce que tous les Burkinabés ont retenu à un moment donné.
Et alors vous, Lucie Vivert, comment vous avez compris, vous, au fil de votre voyage, que cette mémoire soit si vivace alors qu'on a tenté de l'étouffer pendant une trentaine d'années?
Oui, Thomas Sankara, c'était quand même un homme politique exceptionnel. Même ses détracteurs sont obligés de le reconnaître. Il était exceptionnel par rapport à c'était un esprit brillant et il avait le sens de la formule. Donc déjà, ses discours sont lumineux et très instructifs à bien des égards. Mais aussi, c'est un président qui a agi. Voilà, il a réellement mis en œuvre des choses dans son pays par rapport à la scolarisation, par rapport à l'autosuffisance alimentaire, le logement, effectivement, le rôle des femmes dans la société, mais même l'écologie. C'était quelqu'un qui était très en avance, mais surtout qui agissait au quotidien pour que les choses s'améliorent, que les conditions de vie des Burkinabés s'améliorent. Déjà, rien que ça, c'est difficilement oubliable, on va dire. Mais l'autre chose aussi, je m'inspire tout simplement de Sankara lui-même, qui dit dans une archive, qui n'est pas dans le film, c'est pour ça que je vais en parler, il dit c'est peu de quelques mois ou quelques semaines avant son assassinat, il accorde une interview un peu au long cours à une journaliste allemande. Et elle lui demande, mais qu'est-ce que finalement, c'est quoi le bilan que vous faites de votre passage, de votre pouvoir, en fait. Et Sankara répond, bon, on a fait tellement de choses, les barrages, les écoles, les routes, les dispensaires, mais en fait, tout ça, vous pouvez l'oublier. Le plus important, la plus grande des victoires, c'est que les Burkinabés ont pris confiance en eux-mêmes. Ils ont pris confiance en eux-mêmes et savent qu'ils sont capables de transformer leur environnement, leur réalité. Voilà. Et je pense que ça, cette force-là, cette force-là qu'il a transmise à son propre peuple, en fait, elle est restée très, très dans la tête des gens. Elle est vraiment restée imprégnée et elle s'est transmise effectivement après aux plus jeunes jusqu'à l'insurrection.
On voit à certains moments des images, c'est à Ouaga, je crois, vous montrez un vendeur de t-shirts, des t-shirts à l'effigie de Thomas Sankara. C'est un peu le Che Guevara africain. On a l'impression que c'est un héros.
Oui, maintenant que clairement la censure est terminée, il est même en termes d'image et de produits marketing, on peut dire, il est là un peu partout. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre le fil et le contenu, la valeur de ce qu'il a pu dire et faire. Mais voilà, il y a aussi tout ça qui s'est développé depuis l'insurrection.
Comment vous parliez des archives justement et vous citiez une que vous n'avez pas gardée dans le film. Comment vous avez, parce qu'effectivement elles sont très bien choisies, il y a deux ou trois, il y a des séquences, mais elles sont finalement pas si nombreuses comme ça. Comment vous avez fait pour ce choix raisonné des archives de Sankara? Vous êtes volontairement limité?
En fait, pour tout dire, je n'étais pas certaine de faire appel à des archives. En tout cas, voilà, quand j'ai écrit le projet, quand on est parti en tournage avec Viconti, et même au début du montage, on pensait que les références des spontanées, des personnes rencontrées par Viconti pendant son voyage allaient suffire pour évoquer la mémoire de Thomas Sankara. Et puis finalement, quand même, le fait qu'il ne soit pas du tout présent à l'image, on trouvait que c'était dommage parce que voilà, son charisme, son sens de la formule, son humour, etc. Voilà, c'est aussi ça dont on a eu envie de montrer dans le film. Et bon, moi, je connaissais très bien, j'avais vu plein d'archives, donc c'est vrai que j'avais cette connaissance-là qui m'a permis de choisir finalement seulement quelques séquences d'archives, parfois vidéo, mais aussi parfois uniquement audio, comme cette fameuse archive où il parle de... après son voyage en URSS et à la Cité des Étoiles, il raconte qu'il a demandé aux Russes de réserver une place pour un ingénieur burkinabé pour le prochain départ, la prochaine mission sur la Lune.
Oui, rien n'était trop limité pour Sankara, en fait. On a envie de dire le ciel, c'était sa limite, et encore, même pas l'espace. le film donc va jusque vers Kaya, hein, puisque là où cette ligne de chemin de fer se perd en fait. Elle a été abandonnée. On voit un arbre qui pousse sur la voie. On est donc presque à la lisière du nord du pays en fait, hein, vers la zone frontalière du Niger et du Mali. Et c'est extrêmement cinématographique effectivement. Il y a des rails suspendus dans le vide.
Oui, c'est ça.
Et c'est une métaphore aussi, ou ce cul-de-sac, si je puis dire, cette ligne qui se perd, qui s'arrête.
Oui, voilà, en fait, avec Bicontine, évidemment, au cours de notre voyage, 3 ans après l'insurrection, l'idée, c'était quand même de saisir l'état du pays 3 ans après l'insurrection. Et bon, clairement, la population est déçue. Donc, cette déception-là, j'avais envie de la mettre en image, voilà, de la faire ressentir par les moyens du cinéma. Et c'est vrai que cette voie ferrée, abandonnée, voilà, avec des rails qui tombent dans les fossés, de la végétation qui a repris ses droits, et effectivement ce pont suspendu dans les airs puisque le remblai, le terre-plein a été emporté par une inondation. Enfin, tout ça, ça permet d'évoquer voilà, c'est les difficultés actuelles du Burkina et les incertitudes dans lesquelles sont plongées la population, mais aussi le poète qui se demande toujours est-ce qu'il va rester dans son pays ou est-ce qu'il va partir plus loin, voilà. Effectivement, c'est une métaphore qu'on peut lire, en fait. L'idée, enfin, ce qui était très important pour moi, c'était de laisser le spectateur libre aussi de pouvoir interpréter les choses à sa manière.
Et vous, Bicontine, donc votre voyage s'arrête vers Kaya. Est-ce que vous connaissiez un peu toutes les régions que vous avez traversées, que l'on vous voit traverser dans le film, ou c'était la première fois que vous vous rendiez un peu dans toutes ces zones?
Pratiquement. C'est vrai que moi, je connais un peu le Burkina, mais pour ce parcours-là, sur la ligne du chemin de fer, ce qui est très important, c'était vraiment une découverte. Il y a des localités comme Zamo, Pompoi et vers Kayala, il y a beaucoup de localités que je ne connaissais pas. Vous voyez dans le film, entre-temps, je suis obligé même de demander est-ce que la ligne, là, ça se trouve, ou parce qu'entre-temps, dans la vadrouille au village, je me perds un peu. Je leur demande, mais où est-ce qu'on peut trouver le chemin pour continuer vers Kaya? Et là, c'était vraiment des découvertes assez, comment on appelle ça, assez inattendues. Même si pour quelqu'un qui connaît le Burkina, partir de cette manière-là, à la rencontre des Burkinabés et aussi à la rencontre du paysage burkinabé de cette façon-là, c'est vraiment c'était quelque chose de nouveau pour moi.
Merci Lucie Vivert et merci Bicontine. Sankara n'est pas mort. J'encourage les auditeurs à le découvrir en e-cinéma sur le site de la 25e heure. Merci encore. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. Un grand merci à Fabien Mugneret. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma.
Tous les cinémas du monde.
Vous avez raté la séance ? Podcaster ou réécouter tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.